Et par ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure ce que nous a dit Saint Paul. Saint Paul, après s'être vanté de ses faiblesses, et en assumant les révélations divines qui lui ont été faites à maintes reprises, notamment une particulièrement marquante, il 14 ans avant qu'il ne nous dise cela, et il montre que ces grâces particulières, ces expériences extraordinaires ne sont rien en fait, et ne conditionne pas sa vocation apostolique. Et il ajoute que l'égard à ces manifestations divines dont il a été gratifié, un ange du diable a été mis à ses côtés pour le souffleter afin qu'il ne s'enorgueillisse pas des charismes qu'il avait reçus. Et c'est de cet ange de tentateur, cet ange dont je voudrais vous parler un instant. Tout le monde, depuis les premiers pères de l'Église, tout le monde s'est interrogé pour savoir quelle était cette épreuve que l'ange du mal était par laquelle il était souffleté pour rester dans l'humilité. Certains ont pensé que c'était peut-être à cause de sa physionomie. Il faut dire que, contrairement à ce que nous montrent les icônes, mais qui ne montrent pas un corps déchu, il n'était pas spécialement aidé par la nature. Il était petit, ce qui n'est pas forcément ce qui peut être un handicap, mais qui n'est pas forcément un péjoratif. Et c'est que je suis obligé de prendre des précautions. Hein. Et il était un peu mal fichu, quoi. Bon. Et notamment, il y avait Jean Barquet. J'invente pas, je vous assure que je n'invente pas. C'est la tradition qui nous l'a ramené. Tout ça. Et qu'il n'avait pas la prestance qu'on aurait pu attendre d'un orateur que l'on devine dans les lettres qu'il nous a fait parvenir, qu'ils sont parvenus. Certains pensent que c'était peut-être, il avait peut-être une passion. Un péché qui aurait pu le titiller. Certains ont pensé que c'était peut-être le souvenir de la persécution contre les premiers chrétiens auxquels il avait participé, puisque vous savez qu'il avait présidé à la lapidation de Saint-Étienne. Et qu'il était particulièrement zélé, puisqu'il partait, quand il s'est converti, il partait pour Antioche avec une lettre de recommandation du Sanhédrin, c'est-à-dire du tribunal juif, pour aller justement persécuter les chrétiens. D'où la question, l'interrogation du Christ, pourquoi me persécutes-tu ? Voilà, ce sont des hypothèses. Aucune n'est satisfaisante. D'abord, parce qu'il n'a jamais dit de quoi il s'agissait. Certains, et je finis par cette interprétation-là, cet essai d'interprétation-là, pensent que c'était peut-être puisque c'est dans le cadre de sa prédication, de sa vie apostolique, hein, que peut-être il s'agissait de, comment on pourrait dire, de l'insatisfaction, de la lancinante tentation de ne pas avoir réussi, puisque son effet évincé, la conversion des Juifs, puisqu'il a été évincé des synagogues. Et il n'a pas pu sauver, il n'a pas pu voir le salut de son peuple. Tout cela, il y avait encore une autre interprétation qui est possible, que j'ai oubliée tout de suite. Saint Paul laisse un voile pudique sur cela. Parce que c'est, j'allais dire, pour nous, c'est sans intérêt. Que ce soit un aspect ou un autre aspect, qu'est-ce que ça change pour nous? Cependant, pour nous, c'est un bon exemple de voir la fécondité de l'apostolat de Saint Paul avec la conscience de quelque chose qui l'humilie en permanence. C'est difficile à traduire.
Oui.
C'est quelque chose qui peut nous tenailler tous, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, pouvons avoir des passions qui reviennent régulièrement, dont on n'arrive pas à se défaire. Tous pouvons avoir des doutes aussi. Tous avons aussi des défis de science physique. Tous pouvons avoir des... J'ose pas trop dire des doutes, mais ça reviendrait un peu à ça, sur le salut du monde. Comme Saint Paul voyait son peuple qui continuait à errer dans la prison de la loi de l'Ancien Testament, et qui ne reconnaissait pas le Sauveur, qui ne reconnaissait pas le Messie. Nous-mêmes, quelquefois, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui fait ce Messie à laisser le monde errer comme il erre? Et nous voudrions, nous espérerions voir au moins l'amorce, au moins le salut, l'amélioration de notre monde. Et pourtant, nous ne le voyons pas. Et c'est peut-être en cela que Saint Paul, dans ce domaine-là, nous apporte une espérance. Dire que malgré ce qui l'humiliait, rien n'empêchait ce que j'appelais tout à l'heure la fécondité de son ministère. D'ailleurs, à la fin de ce passage, le Saint Paul demande au Seigneur, mais pourquoi m'as-tu laissé me battre tout seul? Il dit avoir prié Dieu par trois fois de lui enlever cette mystérieuse épreuve. Et le Seigneur lui répond, mais ma grâce te suffit. Malgré cette épreuve-là, la grâce de Dieu suffisait pour que Paul accomplisse la mission qu'il devait accomplir. Et pour nous-mêmes, dans toutes les formes d'épreuves par lesquelles nous pouvons passer, la grâce de Dieu nous suffit. C'est-à-dire que dans ces épreuves, il faut simplement nous tourner, nous jeter à bras le corps dans les bras du Christ. Si je peux prendre cette image-là. C'est-à-dire que par la foi, même si on ne comprend pas les chemins que Dieu utilise, même si nous sommes scandalisés devant le silence de Dieu, si nous sommes souffrants de l'évolution du monde, de nous-mêmes, de nos maladies, de nos épreuves physiques ou psychiques, nous pouvons, comme saint Paul, nous en remettre complètement à Dieu, sachant que ce que Christ nous avait enseigné, ça c'était vrai. On n'en voit pas comment, mais ça, et on s'attache à cela. C'est l'apprentissage de la foi la plus profonde, la plus pure. Croire sans voir. Et croire sans voir, c'est d'une grâce de Dieu. Et tous ici, vous êtes des témoins au sens où saint Jean utilisait le terme dans l'Apocalypse, c'est-à-dire à la fois témoin et martyr, puisque c'est le même mot en grec, témoin de la présence de Dieu par votre foi dans le monde. Et ceci est une grâce, est une expérience suffisante qui doit nous apporter dans toutes nos épreuves, de quelque ordre qu'elles soient, doit nous apporter la paix, non pas la paix de gens insensibles, mais la paix, celle qui vient d'en haut, celle que l'Église, que l'Esprit Saint nous a envoyé, notamment pendant la liturgie, quand les prêtres se retournent, dire paix à tous. La paix, c'est un don de Dieu, et la donne, c'est à nous de la recevoir, mais pas de la susciter, mais de l'accepter, de la recevoir, de la garder et de la faire nôtre. Mais pour cela, il faut se jeter totalement, avec générosité, et nos doutes éventuels, nos interrogations ne sont pas une opposition à cela. Il nous faut nous jeter complètement par la foi en Christ. Nous sommes les membres de son corps. Le Christ est présent dans le monde. Il a envoyé son Esprit Saint, pas pour quelques heures simplement le jour de la Pentecôte, pas pour une période simplement, par exemple la période apostolique, mais pour toute éternité. Il a envoyé son Esprit Saint et il est là, il est présent et il œuvre. La manière dont Dieu parle au cœur de l'homme, c'est rarement avec une voix audible, comme a pu l'entendre saint Paul sur le chemin de Damas et à d'autres moments, ou que certains saints ont pu entendre quelques fois dans leur vie. Mais la plupart du temps, la parole de Dieu est agissante, c'est-à-dire que c'est à travers les événements, à travers le déroulement de notre vie et de la vie du monde que Dieu nous parle. Et il parle de quoi ? Il nous parle de quoi ? Il parle de la déification des hommes. Donc tout ce par quoi nous passons, tout ce que nous avons à supporter, voire à subir, tout cela a un sens dans le salut du monde, c'est-à-dire dans la transfiguration, dans l'illumination du monde tel que Dieu l'avait conçu à la création. À lui soit la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.